Cinquième étape, Paolo Giovio. En quittant Villa Olmo, vous poursuivez votre chemin sur la promenade en direction du monument aux morts, victimes de la guerre. Vous longez le lac qui se trouve sur votre gauche, jusqu'à ce que vous voyiez sur votre droite un bâtiment de style néoclassique. Il s'agit de Villa Gallia, la cinquième étape de notre promenade littéraire. Qui sait sous quel aspect elle s'est présentée avant sa reconstruction en 1719, car Marco Gallio fit démolir la villa de Paolo Giovio, à l'époque évêque humaniste, car détériorée par les inondations du lac. Paolo Giovio naquit à Comme le 21 avril 1483, fils de Elisabetta Benzi et du notaire Luigi Zobbio, qui meurt quelques années après sa naissance. Paolo est d'abord orienté vers les sciences humaines par son frère aîné Benedetto, puis s'inscrit à l'université de Pavie, où il obtient le diplôme en artibus et en médecine. Il exerce comme médecin pendant quelques temps, mais sa vraie vocation est celle de devenir lettré et courtisan. Il fréquente ainsi le milieu de la curie romaine lors de l'élection du pape Léon X, fils de Laurent le Magnifique, par l'entremise duquel il obtient la chaire de professeur de l'étude romaine et l'académie romaine où il approfondit ses études littéraires, artistiques et philosophiques. Dans ce milieu, Giovio contribue aussi à une réévaluation linguistique du latin. Il est lit comme étant « la langue de cour » à la période de la Renaissance. En 1517, Giovio est nommé chevalier par les papes et il s'émet au service de Julien des Médicis, cousin de Léon X, et pour ce, se déplace à Florence, car son nouveau mécène est gouverneur de la ville. Pendant ces années, il connaît les figures de proue de la scène culturelle florentine, fréquente les élégantes salles seigneuriales et se consacre à la séduction des femmes. Pendant la même période, il amorce la rédaction d'une de ses œuvres historiographiques les plus importantes, les Historiae. Grand amateur d'art, lettré, médecin et homme d'église, Giovio collectionne de nombreuses œuvres d'art qui lui sont chères, notamment des portraits. Il semble que sa maison sur le lac de Comme était devenue une véritable villa-musée. On peut définir Paolo Giovio comme étant le précurseur du musée au sens moderne du terme, et considérer sa maison comme le premier musée du monde. En effet, ses invités pouvaient se promener dans les vastes couloirs de la villa et admirer sa collection de pièces uniques. Parmi celles-ci, un portrait de Christophe Colomb, aujourd'hui conservé à la Pinacothèque de Comme. Sa collection est considérée d'une importance primordiale dans le monde de l'art, à tel point que la Galerie des Uffizi à Florence expose copies de certaines de ses peintures dans une salle appropriée. Pendant les années de bouleversements politiques, Giovio se trouve fréquemment sur le champ de bataille en qualité de légat militaire, ce qui le conduit à assister au pillage de Comme par les troupes espagnoles. À la suite de l'occupation de la ville, un de ses frères, Bernardo, est capturé et torturé, ce qui fait germer en lui un sentiment de pacifisme. Dans les années suivantes, Giovio se déplace entre Gênes et Mantoue, jusqu'à la mort du pontife, dont Julien de Médicis sera le successeur, avec le nom de Clément VII. L'humaniste atteint alors les sommets de son influence politique et culturelle, en devenant membre permanent de la cour pontificale. Il se charge des tâches que le pontife ne peut assumer. Après les sacs de Rome en 1527, Giovio se déplace à Ischia, auprès de la poétesse Vittoria Colonna et du cénacle artistique dont elle est le pivot. Et il y reste jusqu'à la fin du conflit avec l'Empire de Charles Quint, pour ensuite retourner dans la capitale et récupérer son poste de courtisan. Pour le remercier de sa fidélité, Clément VII le nomme évêque du diocèse de Nocera dei Pagani. Giovio exerce ses fonctions aussi à la cour d'Hippolyte de Médicis. Il engage dans la croisade contre les Ottomans, ce qui va faire l'objet d'un récit dans le 30e livre de son ouvrage intitulé « Histoire ». En 1534, il revient à Comme, mais pour retourner à Rome peu de temps après, à la veille de la mort du pape Clément VII. Il s'est mis à disposition du nouveau pape Paul III et réussit à entrer dans les cercles du cardinal Alessandro Farnese. De 1535 à 1541, il est membre de la congrégation de députés pour la fabrique de Saint-Pierre Mais malgré sa charge prestigieuse, son rapport avec les pontifes se dégrade progressivement. À partir de 1542, il fréquente l'Académie de la Vertu, dont l'objectif était de récupérer l'héritage gréco-romain et de rédiger une sorte d'encyclopédie du savoir architectural du monde classique, dont Vitruve parle dans son œuvre De Architettura. Poussé par ce mouvement culturel, Giovio décide d'engager aussi sa ville natale sur cette voie et fait construire sa villa en Via Borgovico en appliquant les principes fondamentaux de l'architecture classique. Après la mort du pape Paul III, Giovio quitte Rome pour Florence, où il s'installe définitivement, et précisément à la cour de Cosme Ier des Médicis. Peu d'années après, le 12 décembre 1552, Giovio mourra suite à une attaque de podagre. Quelques années plus tard, en 1559, on publie ce qui est considéré comme étant le premier guide touristique du lac de Côme, la Descriptio Lari Lacus, écrite par Paolo Giovio en 1537 à la demande du gentilhomme Francesco Spondrati, en quête de conseils en vue de la construction d'une villa sur un terrain acquis à Bellagio, l'actuelle Villa Cerbelloni. Giovio avait fait réaliser une carte pour accompagner son texte, et c'est grâce à cette carte que le lac de Côme a été inséré, lui accordant beaucoup d'importance, dans le premier atlas de l'histoire, le Theatrum Orbis Terrarum, du Belge Abraham Ortelius, réédité jusqu'à 25 fois de 1570 à 1598. Au précurseur du musée moderne, le poète Pietro Bembo, premier biographe du peintre Raphaël, son contemporain, et rédacteur de l'épitaphe sur la tombe de l'artiste d'Urbain, exposée dans les Panthéons des Roms, rendit hommage avec ce sonnet en 1538. Giovio, vous qui les temps et les œuvres collectées, du fatigant air du siècle qu'elle est nôtre, en une encre si pure et si louée, vous, célébrez éternellement, vivrez. Pourquoi le style désormais n'adressez-vous pas à ceux, nouveaux en terre, et doux monstres, femmes gentilles, qui n'ont plus de perles et pourpres, mais seulement d'honneur et des vertus à soi? Elle brillera comme un beau soleil parmi les autres astres de vos chartes, les rendra de plus en plus agréables seules. Celles-ci possèdent tout ensemble ce que d'habitude on distribue, morceau à morceau, au moins un mille, en beauté, valeur, nature et art.